Bonjour Jean-Baptiste Ramon.
Et bonjour.
Vous êtes le maire du village de Gèze, c'est juste au-dessus d'Argelès-Gazost. Vous allez aujourd'hui nous présenter votre village. On va parler avec vous de la communauté de communes, c'est celle de Pyrénées-Vallée des Gaves. On va parler d'un tas d'autres choses parce qu'il y a aussi une aventure que vous vivez dans votre village avec les chemins, tout cet enjeu que sont les chemins de randonnée. Vous nous parlerez de ça et puis nous parlerons aussi de ce que c'est qu'être élu aujourd'hui, en 2025. Quelle est la vie d'un élu? On reçoit souvent des élus au micro de Radio Présence, on entend souvent les défis qui sont à relever, bah vous nous direz comment vous vivez cette mission, voilà, cet engagement que j'ose appeler mission. Alors on va commencer, si vous voulez bien, par présenter ce village de Gèze, au-dessus d'Argelès-Gazost. Présentez-nous un petit peu, faites-nous la carte postale, faites-nous rêver avec votre village.
Bon, et bien écoutez, déjà merci pour votre invitation, c'est un exercice que je n'ai pas l'habitude. Donc je vais essayer d'être à la hauteur.
Ça va très bien se passer. En général, les maires viennent peut-être un peu tendus, mais repartent et puis reviennent avec grand plaisir. Alors vous êtes le bienvenu.
C'est de celui-là que je suis venu. Donc je suis donc de Gèze maintenant. Alors Gèze, c'est un petit village qui est promontoire du Lavedan, exposé plein sud. Donc c'est, on va dire, l'entrée du Val d'Azun, même si la porte du Val d'Azun serait, c'est à Arras en Lavedan. On est plutôt sur la vallée du Val du Bergons. Ce village est finalement le dernier rempart avec derrière le col de Spandel, limitrophe avec le Béarn. Donc c'est un petit village de 345 habitants. On finit le recensement, donc je saurai précisément combien on a d'habitants rapidement. Il y fait bon vivre dans notre petit village. La chance de cette géographie, c'est qu'il est proche, notamment d'Argelès, il y a une proximité avec le chef-lieu de notre territoire, de la vallée des Gaves. Et donc, on a la chance d'avoir dans ce petit village le maintien de l'école. Moi, qui suis très attaché à cette politique familiale.
Donc, en regroupement avec d'autres villages ?
Alors, voilà. Moi, je vais vous parler aujourd'hui beaucoup de cohésion, je vous parle d'humain. Quand on a eu la visite de Monseigneur, il nous a fait vraiment un laïus sur ce registre-là, qu'on doit, nous, la paroisse, fédérer. Et nous, notre rôle aussi de maire, c'est aussi de fédérer des gens autour d'un projet commun, de mettre l'humain. Et l'humain, ça passe aussi par la famille, je trouve. Et on est très heureux de pouvoir avoir une école avec quatre villages que sont Gèze, bien entendu, Serres, Salles ou Zousse. Et nous avons un RPI où mes prédécesseurs...
Donc RPI,
c'est un regroupement pédagogique.
Voilà, regroupement pédagogique intercommunal.
Exactement. Et qui a permis cette mutualisation de maintenir l'école, cette proximité. Je crois que c'est une chance fondamentale pour l'éducation, bien entendu, pour donner aussi des valeurs. Je trouve que c'est... on a des écoles à petite échelle. Donc c'est à peu près 25 écoliers par classe, sur trois classes, GS, Salle et Ouzous. Et ça permet effectivement d'avoir une éducation, je dirais, d'intégration de valeurs, identitaire. Je ne suis pas sectaire dans ce que je veux dire, mais l'identité pour moi est très importante. Et donc, on a la chance d'avoir un village de Gèze qui porte ces valeurs-là.
Alors, pour que ça marche et pour que vous ayez une vision à long terme, notamment avec l'école, ça veut dire qu'il faut que vous puissiez, dans votre village, accueillir des familles, que les familles puissent rester, s'installer, pour que vous puissiez être sûr que bien, l'école, elle a de l'avenir, puisque les familles sont là.
Je crois que c'est un sujet de fond, un peu, de nos territoires qui sont... lié au tourisme, donc le tourisme amène l'attractivité. Et c'est vrai que quand on a des terrains ou des maisons qui sont rachetés par des familles, c'est une richesse humaine à long terme. Donc je crois qu'aussi notre sens d'élu, c'est donner cette possibilité à des primo-accédants de pouvoir acheter. C'est aussi d'amener des services dans nos villages. Donc moi, je suis très content avec mon équipe municipale. Je vais raisonner qu'en équipe. C'est pour moi fondamental. On avait trois objectifs majeurs quand on a pris cette mission-là. C'était déjà de respecter l'héritage que nous avons. Donc nos prédécesseurs ont fait beaucoup de bonnes choses. Et donc, on a mis trois objectifs majeurs. C'était recréer du lien, qui est fondamental. Maintenir l'embellissement du village. Et le troisième objectif qui était pour moi aussi, qui ne peut se dissocier, c'est de repositionner notre village auprès du territoire. C'est ça qui est important.
C'est-à-dire au sein d'une communauté de communes, au sein de la vallée des Gaves.
Voilà, et de l'intérêt général. Et donc, On a créé quelques petits espaces ludiques, un espace multigénérationnel qui fonctionne très bien. On a de la vie entre les pétanqueurs, entre les jeunes qui viennent faire du foot.
Donc là, c'est aussi pour les personnes qui sont de passage, pas seulement pour les gens qui résident.
Exactement, puisque l'attractivité passe aussi par ce développement économique qui est lié au tourisme. Quand je pense repositionner notre village auprès du territoire, il faut que chaque petit village puisse amener sa pierre à l'édifice par rapport à ses valeurs, par rapport à ses ambitions, mais qui comporte l'intérêt général, quoi. Et donc, ce sont des outils qui permettent de fonctionner. On a aussi entamé une démarche. Moi, je parle de revenir à l'aspect le plus authentique, c'est-à-dire, mais ce n'est pas péjoratif ce registre-là, c'est même valorisant, c'est-à-dire qu'on essaie de maintenir une architecture. On a des doctrines architecturales qui sont des maisons en pierre à deux pentes, etc. Donc nous, on est vigilants quand on a des constructions, on essaie d'essayer de maintenir ce cadre-là.
Est-ce que sur votre territoire, il y a déjà la loi montagne qui dicte...
Elle en fait partie, la loi montagne, mais on est plutôt sujet à des doctrines. C'est-à-dire que la loi montagne n'a pas un gros impact sur l'urbanisme, notamment. Nous, on est plutôt sur ce maintien. Donc il y aura, je dirais, dans les années à venir... une transformation de notre schéma directeur carto-communal, un PLUI intercommunal. C'est ce que la loi NOTRe nous impose de faire dans les années futures. Et donc, on pourra maintenir plus de maintien d'identité, c'est-à-dire ou plutôt d'architecture. On pourra imposer des choses, ce qui va alléger aussi le fonctionnement aussi des maires dans ce registre-là. Et ce que je voulais vous dire dans toute cette démarche-là, c'est que dans le fait que nous voulons maintenir cette authenticité, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, l'enfouissement des réseaux qui fait qu'on peut maintenant, on n'a plus un câble dans nos villages, dans le village de Gès notamment, ce qui permet finalement d'avoir une architecture magnifique, on a des cartes postales.
Et de profiter pleinement du Bergonce dont vous parliez tout à l'heure.
Et puis finalement, derrière, ça amène sur aussi la technologie, puisque l'enfouissement nous a permis aussi d'intégrer la fibre. Donc finalement, on est un village qui est authentique et aussi qui est toutes les moyens techniques de maintenant, qui permet de communiquer et de fonctionner.
Alors pour que ce soit harmonieux, il faut que ce genre de défi soit relevé, non pas seulement à l'échelle du village, mais à l'échelle de l'intercommunalité. Alors, vous parlez tout à l'heure du schéma directeur. Ça en fait partie, ce genre de choses? Qu'est-ce que c'est, au fond, qu'un schéma directeur?
Il y a plusieurs sujets dans la gestion d'une mairie. Donc là, sur l'urbanisme, par exemple, on a à l'intercommunalité, on a un service instructeur qui nous accompagne, nous, à gérer. C'est-à-dire que là, le transfert de compétences n'est pas encore à l'interco. Elle est encore gérée par nos communes, par soit du RNU, donc il n'y a pas de schéma directeur d'urbanisme, soit par une carte communale, donc on a un zonage, soit par un plan d'urbanisme, plan PLU. Donc, moi j'ai une carte communale, quand j'ai un urbanisme qui arrive, quand j'ai une personne qui veut construire, déjà je lui dis, est-ce que vous savez où c'est que vous posez les pieds? C'est la première question. Mmh. Et pourquoi vous venez ici? C'est la première question que je pose à ces personnes-là. Derrière, quand ils me proposent déjà un premier projet, je souhaite qu'ils aient compris l'identité de notre village et que le projet qu'ils me proposent soit dans cette cohérence-là.
Mais vous avez, vous, en tant que maire, le pouvoir de dire, écoutez, non, construction, votre projet n'est pas possible chez
derrière,
nous.
Exactement, bien sûr. On essaie d'avoir ce libre... c'est l'arbitrage, c'est notre rôle d'arbitrer tout ça. Et donc pour ça, on se fait aider par l'intercommunalité, il y a un service instructeur qui analyse le dossier et qui nous met des réserves et qui nous explique comment est-ce qu'on est dans la vérité de ce qu'on peut opposer, si on doit opposer, ou plutôt ce qu'il nous propose, on peut poser des questions, est-ce que ça correspond concrètement à notre architecture et est-ce qu'on peut l'accepter? Donc si vous voulez, on est... ça c'est pour la partie urbanisme. Quand tout à l'heure, et je crois que c'est un peu le sens de notre rencontre aujourd'hui, les chemins, le patrimoine... Il y a un super projet qui s'est lancé à l'Interco, c'est la refonte d'un schéma directeur des chemins. C'est vrai que donc, c'est un travail qui va se faire sur le long terme. On a la chance dans notre vallée des Gaves, donc qui représente bien sûr la vallée d'Argelès, le Val d'Azun, Cauterets et bien sûr tout le Pays Toy avec Avarnie et puis la vallée de Barèges. On a une richesse de niveau qui fait qu'on part quasiment de 450 mètres pour arriver à 3390 mètres.
C'est extraordinaire.
Et donc, on a un potentiel chemin qui est très, très important. Mmh. Je crois que c'est, on est plus de 1500 km. Alors, il y a beaucoup d'actions qui ont été faites par des élus. Celles que je vous parlais plus tôt, après, dans mon village, et puis avec celles de mes collègues de Serres, Salles et Ouzous. Mais il y a beaucoup d'initiatives qui ont été faites par des élus, par des mairies, par des associations pour créer divers chemins. Des chemins de vélo, des chemins de randonnée.
C'est vrai
qu'il y en a
partout.
De courses, de trail. Ouais. Ouais. Il y a des courses de trail en permanence dans nos territoires. Il y a bien sûr la route avec tous les cols mythiques que nous pouvons avoir. Et donc, en fait, toutes ces initiatives font qu'aussi il y a une harmonisation qui doit être faite sur la signalétique et sur la définition des chemins qu'on peut intégrer d'intérêt communautaire. Mmh. Et des chemins aussi qu'on doit laisser à la gestion des communes ou autres bonnes personnes qui veulent.
Ah oui, alors ça c'est très intéressant. Ça veut dire, c'est pas tout à l'interco ou tout
possible.
Au village.
C'est pas possible.
Il y a une répartition intelligente de la gestion des chemins.
Ouvrir un chemin, finalement, il n'y a pas de retombée directe. Mmh. Très clairement. On ne fait pas payer un abonnement,
oui, bien sûr,
etc. Donc, c'est des reversions indirectes, on appelle ça. C'est-à-dire que l'attractivité et tout ce qu'on peut amener amène que des personnes viennent, reviennent et promeuvent finalement ces chemins et notre vallée.
Donc ça ne rapporte rien en termes de finances ni à la commune ni à l'intercommunalité.
C'est des bénéfices indirects, quoi. Ça peut être des hôtels, ça peut être des appartements, c'est des restaurateurs. En fait, c'est tout ça, c'est des reversions indirectes.
Donc c'est pour ça que vous dites que c'est un travail ensemble.
Et donc l'intercommunalité ne peut pas tout porter.
Bien sûr. Et
de fait, donc il va falloir prioriser. C'est tout le sens du travail. On se fait aider par un cabinet. Je n'en dirai pas plus parce que c'est en cours et c'est un travail qui est vraiment commun lié à l'interco. Mais j'y crois beaucoup parce que ce sont des leviers qui nous fédèrent. Moi, je suis d'une éducation sportive, c'est-à-dire rugbystique notamment. Et j'avais un entraîneur qui me disait souvent 70% du résultat est lié à la cohésion. Et dans toute interaction humaine, que ce soit associative et même de village et entrepreneuriale et je dirais même de cohésion sur les comités des communes, il faut qu'on crée la cohésion. Et je crois que là, nous on y est donc par la commission de tourisme notamment et la commission aussi qui est des aménagements sportifs et des structures sportives. Et on se sent vraiment motivé pour travailler dans le devenir. C'est porté par notamment le maire de Barège, Pascal Haribet, qui est le président de la commission. Donc lui pour vous en dire peut-être plus sur ce schéma directeur. Et il y a aussi Charles Legrand, donc, que vous avez rencontré quand on a vu la rencontre des paroisses, qui est le maire d'Arras-Saint-Davedan, qui a des aménagements sportifs et structures sportives. Et donc voilà, je crois qu'on a un super projet de devenir, parmi tant d'autres, bien entendu. Mais je sais que ces chemins, c'est maintien de nos territoires, et c'est ce que je vais peut-être vous parler un petit peu sur notre territoire.
Voilà, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Baptiste Ramon, maire du petit village de Gèze, au-dessus d'Argelès-Gazost. Alors, monsieur le maire, quand je dis petit village, ce n'est pas du tout péjoratif, vous avez bien compris.
Je ne l'ai pas pris comme ça.
Voilà. Alors, nous parlons des chemins avec vous. On entend bien, on a bien compris en première partie l'enjeu des chemins. Mais je voudrais revenir à quelque chose que vous m'avez dit avant qu'on démarre l'enregistrement. En aparté, vous me disiez que les chemins ont aussi un rôle important dans l'harmonisation des paysages. Et vous me disiez, mais les paysages, nos paysages ont vraiment changé. Il y a même un enjeu de sécurité. Avant qu'on reparle de ce que sont les chemins et de ce que vous proposez sur votre village, je voudrais qu'on aborde ce point-là.
Le constat, il est pour moi clair. Enfin, c'est ma vision. Si je vous montre une photo il y a 50 ans de notre vallée, si je vous la montre maintenant, on a une partie notamment des villages, la partie communale, on va dire, les communaux.
Oui.
En fait, si vous voulez, dans la répartition, il y a les champs de plaine ou l'agriculture de plaine. Il y a ensuite les communaux, ce sont derrière nos villages. Et après, il y a les espaces pastoraux. Et si vous voulez, il y a une tranche qui, je dirais, en termes d'altitude, de 550 mètres ou de 600 mètres d'altitude jusqu'à à peu près 1500 mètres, un peu moins de 1500 mètres, où on a vraiment une transformation de nos paysages.
C'est-à-dire que la forêt prend la...
Exactement, c'est exactement ça. Donc je crois que c'est lié à plusieurs phénomènes. Hein.
Peut-être d'abord parce qu'il y a moins d'élevage.
Alors certainement. Donc c'est là je vais être prudent dans ce que je dis parce que je suis fils de paysan. Mais c'est vrai qu'on a eu une transformation de l'agriculture dans le fonctionnement de l'agriculture. On est parti plutôt sur l'intensification, et je crois que c'est normal, hein, on doit vivre de nos métiers. L'intensification, c'est quoi? C'est augmenter nos productions dans nos élevages. Et donc, il faut de la ressource en fourrage. Et je crois que nos agriculteurs, je vois aussi la pratique dans l'exploitation que mon frère a repris, on a peut-être une moins forte entretien de ces endroits-là. C'est-à-dire qu'avant, on prenait le temps de le faucher avec des motos faucheuses à la faux ou autre. Maintenant, on fait du package et on va faire plutôt le foin dans des endroits qui sont beaucoup plus accessibles. C'est tout le sujet.
Donc la nature reprend ses droits dans les endroits qui ne sont pas...
Vous savez, il y avait une méthode qui était très simple. On faisait pâturer au printemps, on fauchait l'été. Et ceux qui n'avaient pas été fauchés et qui n'avaient pas été pâturés ont pratiqué l'éco-buage. L'éco-buage, j'en parle assez librement, c'est vraiment un sujet où il y a beaucoup de personnes qui sont contre, etc. Mais il faut comprendre que l'éco-buage, c'est une pratique ancestrale qui permettait d'entretenir ces territoires-là et qui était vraiment le compromis entre la pâture des élevages, ensuite l'aspect, on va dire, fauche, et ces résidus, c'est-à-dire des petits noisetiers qui peuvent pousser, des petites ronces qui peuvent pousser, et eh bien elles étaient fauchées, et la fougère. Donc c'est vrai que là, on a eu depuis une trentaine, quarantaine d'années, une déperdition de ces entretiens, et effectivement ça se bouche, parce qu'il se met la fougère, après la fougère il se met noisetier, c'est les ronces, et on perd ce foncier-là. Donc moi l'idée que j'en ai, que j'ai proposé aussi un peu à mes collègues, c'était qu'il faut trouver des solutions pour essayer de vouloir le regagner.
Oui, mais pardon, mais je vous coupe, mais ces propriétés, elles sont privées.
Alors, il y a des propriétés privées, tout à fait, mais il faut donner du sens de vouloir y aller. C'est-à-dire que, dans le temps, les anciens avaient fait des chemins pour... je vais vous donner un exemple concret. On est en train de réouvrir le vieux chemin de la montagne qui part de Serres et qui arrive jusqu'aux Trois-Sapins. C'est le Val du Bergons. Et on redécouvre un chemin qui est magnifique. Il a quasiment 2 mètres de largeur. Il a été fermé. Je suis convaincu que... En fait, c'est pas une utopie pour moi. Je suis convaincu que si des personnes qui y passent et qui voient que dans le cadastre, ils sont propriétaires, parce que c'est comme ça que ça peut se passer, eh bien, ça pourra peut-être donner l'envie de le renettoyer. Et donc, je crois que l'un ne va pas sans l'autre.
Donc, vous avez aussi besoin des propriétaires et des agriculteurs pour que ces chemins puissent revivre.
C'est toute une harmonisation. Vous savez, on parle de maillage du territoire.
Oui.
Le maillage, c'est toute une somme de personnes.
Oui, bien sûr.
C'est les pros, dont les agriculteurs ou autres. C'est aussi les privés. Et notre rôle, c'est donner du sens.
Mais alors,
donner du sens, c'est peut-être donner ses initiatives. Et j'espère qu'on pourra avoir... et je trouve que là, on a une dynamique qui est assez intéressante dans nos villages. Quand on fait des journées solidaires, on peut avoir jusqu'à 30 personnes pour nettoyer. Ça peut s'essouffler, mais pour ne pas s'essouffler, il faut donner du sens, il faut comprendre. Et je pense que là, on a des leviers pour essayer de redonner une dynamique d'entretien de ces territoires-là.
Alors, au-delà de l'entretien des paysages, quel est le sens de rouvrir un chemin? J'imagine que vous allez me parler de la rencontre et du lien que ça peut créer entre peut-être un village à un autre et puis entre des personnes qui peuvent se rencontrer, se croiser. On parle souvent de la croisée des chemins.
C'est exactement ça. Vous savez, l'initiative répond à plusieurs enjeux. Je finis un petit laïus sur la partie entretien. Et c'est vrai que... On a vu en Californie, je crois que c'était en Californie, le gros incendie qui a attaqué toute une ville avec plus de 10 000 maisons qui ont été brûlées.
Incendié, oui.
On a vu, c'était il y a quelques années, en Gironde aussi, où il y a eu un feu. On voit une évolution climatique qui est de fait, avec de l'excès d'eau ou à l'inverse, moins d'eau. C'est un sujet de fond et un sujet que nous, élus, on essaye de prendre à bras le corps, avec nos moyens, nos petits moyens souvent, mais c'est vrai que c'est un sujet de devenir. Et je crois que, je pense que l'incendie peut être un des enjeux majeurs de demain, un des risques majeurs de demain.
Donc l'entretien de ces paysages...
Mais ça va être fondamental. fondamental.
Et donc, un enjeu sécuritaire.
Un enjeu sécuritaire. Et donc, moi l'idée que j'essaye d'impulser, c'est qu'on essaie de le regagner, donc redonner envie d'y aller, donc la réouverture des chemins, et au-delà de l'aspect sécuritaire, en vouloir envie d'y aller, de rentretenir, c'est un enjeu de rencontre aussi. Voilà, et donc, je reviens un peu sur la thématique du sens aussi de la réouverture. On a passé des journées solidaires où on a passé du bon vivre, on a donné du sens à des personnes de venir donner un coup de main.
Oui.
Et quand ils revoient que les chemins se réouvrent, eh bien, ils sont fiers, ils y vont, ils le refréquentent.
Et c'est une démarche.
Et ils en parlent. Et c'est la dynamique se crée comme ça. Et je trouve que là, on a un lien qui est en train de se créer entre nos villages. Elle y était, bien sûr, mais ça permet de la maintenir, de la développer. Et puis après, de regagner des chemins qu'on ne pensait pas avoir, je dirais, aussi jolis et si proches de chez nous. C'est ça qui est important. Et quand on parle de développement économique de nos territoires, c'est aussi le sport, c'est aussi la santé, c'est aussi le bien-être.
Bien sûr.
Et je crois que donner du sens de vouloir y aller, je pense qu'on a un enjeu sociétal aussi par rapport à ces choses-là.
Alors, j'ai encore deux questions sur les chemins, même trois questions. D'abord, la question du financement. Quand il faut redécouvrir un chemin qui est envahi de ronces, etc., qu'il faut nettoyer, qu'il faut baliser, même s'il traverse des propriétés privées, c'est à la charge de la commune, tout ça, ce travail de nettoyage, il faut du matériel pour faire tout ça.
C'est tout le sujet du schéma directeur. Schéma directeur, c'est qui paye.
Ouais.
C'est ça, très clairement. Ouais. Hein. L'Interco ne pourra pas tout payer, dont les communes, on va devoir financer. Moi, je crois que sur des sujets comme ça, donc à l'heure actuelle, c'est le bon vouloir de chacun. Hein, quand je fais des sondages sur... on a des groupes WhatsApp. C'est vrai qu'on a la communication qui est facile maintenant. Donc, on a aussi des personnes qui sont développeurs. Ça ne peut pas être porté que par les maires. Et donc, on fait un sondage. Qu'est-ce que vous avez ? Rotophile, tronçonneuse. Donc là, on est sur du bénévolat.
Donc, vous partagez aussi les moyens techniques. Quoi.
Voilà. Mais ça ne pourra pas durer. Donc, il va se poser une réflexion du devenir. C'est-à-dire, on ouvre et comment on maintient cet entretien-là.
Et oui, parce qu'après, tous les ans, il faut, ou même deux fois par an, peut-être, il faut repasser pour entretenir.
Exactement. Donc, moi, je crois une chose, c'est que avant, le nettoyage des chemins se faisait par le package des vaches.
Oui.
Donc pourquoi pas, eh bien, deux ou trois fois. Donc si vous voulez, la transhumance fait partie aussi de notre identité, de notre patrimoine. Et je crois que c'est tout ce compromis qu'on peut retrouver, dire aux agriculteurs, eh bien, écoutez, quand vous montez, eh bien, vous faites passer vos brebis. Donc ça peut être déjà une première fauche.
Alors, est-ce que les agriculteurs et ou les propriétaires peuvent s'opposer à ça, si ça passe chez eux ou si ça...
Alors, voilà. Est-ce qu'ils peuvent dire, bah non, moi je sais pas. On signe des conventions, bien entendu. Bien entendu, on signe des conventions avec les propriétaires, donc c'est de l'explication, de la démarche.
Et mais vous rencontrez des difficultés?
Non, c'est très très bien perçu, parce que quand ils revoient que ça s'ouvre, qu'il y a une démarche, on rencontre très peu d'aspects négatifs, bien au contraire, ils viennent. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc, l'entretien, c'est des choses qu'on doit réfléchir. Alors, c'est aller chercher toujours des financements. Un maire est un chasseur de primes. Je ne sais pas si c'est le bon terme employé, mais on essaye d'avoir le maximum de financement et que ça soit moins supporté par la commune.
Oui, sinon, vous êtes obligé d'augmenter vos impôts locaux.
Exactement.
Etc.
Eh bien, vous avez fait la genèse de notre travail. Et c'est ça où il faut être vigilant. Mais c'est sûr qu'il y a vraiment un gros travail à finaliser sur ce projet. Moi, j'y crois beaucoup, pour les raisons que je viens de vous dire, de sécurité, de lien social,
mise en valeur
et
aussi.
De mise en valeur, bien sûr. De ce patrimoine architectural qu'étaient ces chemins avec des bordures en pierre. Et puis, ils sont vraiment magnifiques. On se ressource.
On va arriver au terme de cette émission. On va passer à la dernière partie. Une toute dernière question quand même sur les chemins. Quand vous avez eu la visite pastorale de Monseigneur Mika sur votre territoire, vous avez évoqué ce sujet des chemins. Et vous avez notamment, ça m'a marqué, évoqué un chemin en particulier, ou peut-être un projet de chemin qui irait d'église en église. Est-ce que vous pourriez terminer sur ce chapitre chemin avec
Tout à fait. Alors, chapitre chemin, je vais déjà parler du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous avons la chance du chemin de Saint-Jacques-Compostelle qui passe par nos villages. Alors, nous, on a des églises romanes, d'accord. C'est à peu près du XIIe siècle. Et elles ont été rénovées ensuite par les différents gestionnaires, et maires des communes. Et c'est vrai que Saint-Jacques-le-Compostelle, il passait par nos villages. Et c'était ces églises
de refuge. C'est la voie d'Arles.
Alors, il y a deux variantes. Il y a la variante qui passe par le Val d'Azun, le col de la Pierre de Saint-Martin, et qui va, bien sûr, après Saint-Jacques-Compostelle, et l'autre qui passe par Gavarnie, le col de Boucharot. Donc, on a le chemin, je ne vais pas être précis parce que je ne connais pas exactement où il passe, mais on a ces deux trajectoires-là. On peut aller par le Val d'Azun et après par le Gavarnie, et il passait par nos églises. Et c'était un lieu de refuge des pèlerins qui venaient s'abriter, qui venaient demander aussi logis ou plutôt repas aux administrés et qui accompagnait, et aussi qui se protégeait aussi des bêtes. J'ai lu quelques sujets de ce côté-là.
Alors là, voilà. Les loups, des ours, par exemple.
C'était possible, oui. Voilà.
Ce sera peut-être possible encore dans l'avenir.
Et donc voilà, donc dans le parcours des chemins, on gère un carrefour, c'est-à-dire comme direction, soit on peut gérer un itinéraire. Et donc, la référence que nous réfléchissons un peu avec mes collègues maires des villages et des quatre villages, c'est pourquoi pas créer aussi un parcours des quatre églises pour pouvoir aller les visiter, se recueillir, bien entendu.
Donc ça, c'est un projet, vous donnez un délai? C'est long, c'est long, ce genre de projet?
C'est long, c'est juste des volontés. Donc je pense que ça se fera dans les... ils y sont déjà, les chemins. Mais c'est plus les indiquer.
Oui.
C'est toute une histoire
d'indication.
Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, ce sont des choses qu'on est en train de mettre en place. Oh, je pense qu'à l'horizon d'un an, ça sera fait.
Voilà. Jean-Baptiste Ramon, nous passons à la dernière partie de cet entretien. On va parler de l'engagement d'un élu. Vous êtes maire de Gèze depuis les dernières élections. C'est votre premier mandat de maire. Racontez-nous un peu comment... Alors, on a souvent des élus locaux au micro de Radio Présence. On entend souvent des témoignages très, très forts, très beaux. On pourrait presque même parler d'une vocation d'élu dans certains cas. On entend aussi parfois la difficulté. Vous, comment vous vivez cette mission?
J'oserais vous dire qu'il ne faut pas demander à mon épouse. Non, elle me voit souvent soucieux.
Qu'est-ce qui vous soucie?
Alors, elle me voit souvent un peu en colère, etc. La mission de maire, c'est de petits villages, comme vous le dites. Nous, déjà, j'aimerais dire qu'on a déjà une chance, c'est d'avoir une super secrétaire qui nous accompagne. Parce que si on avait l'aspect administratif à gérer, ça serait impossible. Donc déjà, c'est un travail en commun avec Sandrine, elle s'appelle, et heureusement qu'on l'a. Il faut être vraiment attaché à son territoire. Il faut y aller sans ambition, je dirais, individuelle. C'est tout le sens d'être maire, c'est-à-dire qu'on y va pour l'intérêt général.
C'est pour ça que vous y êtes allé, vous?
Bien sûr, parce que en fait, je ne veux pas que mes filles un jour me disent, et mes enfants, « Papa, tu aurais pu, tu n'as pas essayé. » Au moins, ils m'ont dit « Tu as été, tu as essayé, et puis est arrivé ce qui est arrivé. » C'est déjà aussi un peu cette définition. Je le fais parce que j'ai envie. Je le fais parce que mon père, qui était un élu aussi, m'a donné cette envie de vouloir faire. Et je crois que être maire, c'est être un médiateur, je crois. Déjà, s'il arrive à faire de la médiation dans son village pour apaiser, pour créer du lien, pour créer de la cohésion et aussi pour développer, parce que on n'est que de passage. Moi, je le dis systématiquement, même mes collègues, je rends hommage à mes prédécesseurs qui ont fait des choses de structurelles pour mon village. On est tous de passage.
Donc, il y a quand même une histoire de transmission et d'héritage à chaque fois.
Exactement. Et si on n'a pas compris ça, si on veut de suite tout réformer, il faut on s'adapte de ce qu'on reçoit. Et on essaye d'amener cette pierre édifice avec aussi l'objectif de toujours améliorer. On est là pour améliorer la vie de nos villages, c'est ça. Déjà, si on arrive à améliorer la vie sur nos services, sur la voirie, sur du lien, sur des outils, je crois que déjà on fait un bon pas. Mais c'est vrai qu'être maire, c'est aussi des petits problèmes. C'est le chien qui aboie. Et c'est vrai que c'est 7 jours sur 7.
Oui. C'est-à-dire que les administrés comptent sur vous pour tout.
Oui, c'est ça. Mais c'est normal. Il faut l'accepter, ça. Si on n'accepte pas ça, on peut vite se mettre en colère, et non. Et donc, on doit plutôt prendre sur soi. C'est aussi une équipe. Hein, donc,
Alors ça, vous y tenez beaucoup. Vous ne vous voyez pas maire tout seul.
C'est pas possible.
Vous voyez, en fait, maire en équipe, quoi.
Maire, on est un décisionnaire. C'est-à-dire qu'on a un conseil qui nous accompagne à prendre des bonnes décisions. Et aussi, on est un développeur, c'est-à-dire un dynamiseur, excusez-moi. Mais si on ne dynamise pas et que vous n'avez pas du soutien de votre équipe, vous ne pouvez pas fonctionner. Donc, c'est une répartition des tâches. Hein. C'est aussi une répartition, comme je vous dis, de conseils, parce que, on parlait d'urbanisme tout à l'heure, on a des sujets d'urbanisme qui sont complexes. Ce n'est pas tous les jours tout beau avec des projets de sites multigénérationnels ou de transformation de la salle polyvalente. On est aussi sur des gestions, même des conflits, on peut gérer, on peut amener aussi de l'apaisement. On doit prendre des décisions dans l'intérêt général. Et cet arbitrage est derrière, on ne peut pas l'avoir tout seul. Parce que tout seul, on peut être pris par l'émotion, on peut être pris par beaucoup de facteurs qui ne nous permettent pas une bonne réflexion. Et je crois que l'identité équipe, elle est fondamentale. Et si je me représente, ce sera toujours mon leitmotiv.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Ramon. Je rappelle donc que vous êtes le maire du village de Gèze, au-dessus d'Argelès-Gazos, c'est dans la vallée des Gaves. Merci beaucoup d'être venu à notre rencontre ici dans les locaux de Radio Présence et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci de nous avoir fait rêver avec ces histoires de chemin. Voilà, et j'espère que les auditeurs de Radio Présence, qui sont un peu partout en Occitanie, viendront en profiter. Un grand merci.
Et on vous attend avec impatience.